Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Bonsoir et bienvenue sur Radio Kapi. Voici votre grande édition du soir présentée par Gisèle Cage. Tout de suite, les titres. Crise sécuritaire, le FARDC accuse Kigali de maintenir ses soldats en territoire congolais. 8 militaires rwandais et 8 civils arrêtés loin des frontières lors d'opérations Nord et Sud Kivu. Une violation de l'accord de Washington et de la résolution 2773 selon le lieutenant-colonel Mac Azukai. Kasaï Oriental, la rougeole progresse et inquiète les autorités sanitaires. 456 cas recensés en moins d'un mois. La maladie touche les 19 zones de santé. Aucun décès signalé pour l'instant. Kananga face à une menace grandissante. Les têtes d'érosion doublent en quelques mois. De 400 à 800 sites recensés, la ville s'enfonce dans une crise environnementale majeure. Quelle cause et quelle solution? L'expert David Mwanda nous éclaire en fin de journal. Ouverture de ce journal, les FARDC dénoncent la présence persistante des militaires rwandais sur le sol congolais, une violation flagrante de l'accord de Washington et de la résolution 2773 du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est samedi à Kinshasa, le lieutenant-colonel Mac Azukai, commandant adjoint du service de commandement et d'information en charge des opérations, a exprimé son indignation devant la presse. À cette occasion, il a présenté 8 militaires rwandais et 8 civils originaires de la sous-région arrêtés loin des frontières lors d'opérations menées au nord et au sud Kivu. Écoutez un extrait des propos de Mac Azukai au micro de Blaise Ndongala Mayanda.
Depuis le début de cette guerre, la RDC a toujours affirmé avec des preuves qu'elle est agressée par le Rwanda. Les FARDC vous ont invité pour vous présenter 7 militaires rwandais et 8 civils ressortissants des pays de la sous-région, capturés pendant les opérations militaires au nord et au sud Kivu. L'occupation jusqu'aujourd'hui d'Uvira se trouvant très loin de ses frontières prouve que la raison des mesures défensives avancées par Kigali est un pur mensonge. Il est aussi observé qu'en manipulant certains ressortissants des pays de la sous-région et des groupes armés comme les RED Tabara, Kigali cherche à régionaliser le conflit. En dépit de la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies et de la signature de l'accord de Washington 4 décembre 2025, le Rwanda maintient jusqu'aujourd'hui son armée sur le territoire congolais.
Ituri, nouvelle victoire de l'armée. Les forces armées de la RDC annoncent avoir neutralisé 5 combattants de la rébellion Convention pour la Révolution Populaire CRP et récupéré plusieurs armes et munitions lors des récents affrontements. Le porte-parole des FARDC dans la province condamne fermement l'utilisation des femmes et des enfants comme boucliers humains, accusant les rebelles de se cacher dans les sites de déplacés. Le lieutenant Jules Ngongo lance un appel aux combattants de la CRP déposer les armes pour épargner des vies et ramener la paix dans la région. On l'écoute dans cet extrait recueilli par Jean-Claude Lokidile.
Les forces armées de la République démocratique du Congo ont infligé à la milice CRP un coup dur ce matin à Boulé où nous avons neutralisé 5 éléments de la milice CRP. Zahir de Thomas Lubanga, l'armée a récupéré 4 armes, donc une arme PKM et 3 autres de AK-47. Pour le moment, nous continuons à consolider nos positions et à mener de patrouilles de combat dans toutes les approches où ces milices se dissimulent dans la population, mais également dans le site de déplacés. Ils ont violé les caractères civils de site de déplacés qui constituent même un lieu de hébergement de la milice CRP. Et cette attaque de la CRP s'est soldée à un échec cuisant. Nous les appelons à déposer les armes, à épargner le vie de déplacés. Parce que jusqu'aujourd'hui, l'unique stratégie de la CRP, c'est utiliser les déplacés, les enfants déplacés, les femmes déplacées comme le bouclier humain.
Vous l'avez entendu, ce samedi après-midi, les FARDC ont annoncé avoir repris le contrôle de la localité de Boulé, jusque-là occupée par les rebelles de la CRP. Une information que les sources sur terrain ne confirment pas. Nord Kivu, les bilans s'alourdit. L'attaque attribuée aux rebelles ADF dans les secteurs de Bapéré, territoire de Lubero, survenue la nuit du Nouvel An, continue de faire des victimes. Selon l'administrateur du territoire, 9 nouveaux corps ont été découverts hier lors d'une patrouille conjointe FARDC-UPDF. Cette découverte a eu lieu à Kalongé, un village situé à une dizaine de kilomètres de Mangourjipa, chef-lieu du secteur de Bapéré, à près de 100 kilomètres de Butembo. Le colonel Alain Kiwewa parle d'un bilan encore provisoire. Il s'exprime au téléphone de Martial Papi Mukeba.
Lors d'une patrouille de combat, l'armée ougandaise, donc le UPDF, et nos forces de défense et de sécurité au niveau de d'un village qu'on appelle Kalongé, à 10 kilomètres vers l'agglomération de Mangourjipa, qui est le chef-lieu du secteur de Bapéré. Dans ce village, il y a une découverte de 9 corps qui ont été tués par les terroristes ADF. Sur place, on a trouvé pratiquement 5 blessés. Et ce qui rend un peu lourd, c'est notre bilan qui était de 7. Donc, 6 personnes qui ont été tués, plus la femme qui est décédée suite à ses blessures. Au total, on comptabilise 16 personnes qui ont été tuées, plus 5 blessés. La fouille continue et donc ce bilan n'est que provisoire.
De leur côté, des sources de la société civile avancent un bilan provisoire d'environ 30 victimes. Au Nord Kivu, toujours, l'école face à l'insécurité. Le premier trimestre de l'année scolaire 2025-2026 a été fortement perturbé dans le territoire de Massissi. Conséquence, des affrontements, des écoles déplacées, d'autres complètement paralysées. Malgré tout, les responsables de la sous-division EPST Massissi 1 saluent le courage des enseignants et des élèves, mais ils s'inquiètent. Calendrier scolaire menacé, nombreux écoliers en déplacement. Des mesures d'urgence ont été prises pour sauver la suite de l'année scolaire. Jean Gandou nous en dit plus.
Arrêter le cours au moindre coup de feu ou carrément déménager toute l'école pour espérer fonctionner ailleurs. Voilà le calvaire vécu par les élèves de Massissi lors de ce premier trimestre. Un bilan que détaille Luc Nyamulinduka, responsable de la sous-division de l'EPST Massissi 1.
Il y a certaines écoles qui se sont déplacées vers le lieu sécurisé, telles que les écoles de Lac-Sebouabo, qui se sont déplacées à Massissi Centre. D'autres défis étaient liés à la sécurité, comme à Nyabiondo, là où il y avait un crépitement des balles, et on arrêtait momentanément les cours, et on surprenait après quelques temps. Dans l'axe Bourora, c'est là où il y a eu une perturbation majeure, parce que ils avaient débuté, mais ils n'avaient pas terminé le trimestre comme c'était prévu.
Luc Nambulinduka précise que dans les localités où le calme se réinstalle, comme à Boabo, les établissements regagneront leur site d'origine. Il annonce également l'envoi des inspecteurs sur le terrain pour aider les enseignants à rattraper le retard accumulé. Du côté des familles, les parents sur place espèrent un rétablissement durable de la paix, seule condition pour garantir une scolarité normale à leurs enfants.
Province du Tanganyika, Kalemi, plus précisément sur les sites des Katanika, plus de 2000 ménages déplacés en provenance du nord et sud Kivu vivent dans des conditions extrêmement précaires, pas d'accès aux soins médicaux ni aux besoins essentiels. La situation est alarmante. Ce vendredi, la présidente du site a lancé un appel pressant à l'aide pour venir en soutien à ces familles vulnérables. Le pont avec Paul Amunanga.
D'après la présidente du site de Katanika, il n'y a aucune structure médicale ni de pharmacie sur le site. Ces déplacés, estimés à plus de 11 000 personnes, sont confrontés aux mauvaises conditions de vie et de logement, surtout pendant cette période pluvieuse, ainsi qu'aux problèmes d'eau et de nourriture. Elle revient sur les conditions de vie difficiles sur le site. Actuellement, si une personne tombe malade, elle doit se débrouiller. Si elle se rend à l'hôpital Kifungo, par exemple, pour des soins, elle va obtenir une fin de non-recevoir. Il faut sortir son argent pour se faire soigner. J'ai cet enfant. Sur le site, il n'y a ni pharmacie ni hôpital. Nous n'avons pas d'aide émanant d'un service quelconque. La malaria est très répandue. répandue parmi les déplacés. Nous n'avons pas où dormir. Nous manquons des moustiquaires. S'il y a quelqu'un de bonne volonté qui peut nous venir en aide. Les déplacés fuyant la guerre dans les Kivu ont commencé à s'installer sur les sites depuis février dernier. La présidente indique qu'une organisation humanitaire leur est venue en aide avec des bâches et du petit cash. Mais cela est insuffisant. Lubumbashi, Pole Munanga, Radio Okapi.
Santé publique, la rougeole gagne du terrain au Kasaï oriental. 61 nouveaux cas ont été notifiés la dernière semaine de décembre, portant le cumul à 456 cas depuis le 15 décembre. En 4 semaines, la province a enregistré 259 cas et la maladie touche désormais les 19 zones de santé. Sa cible, les enfants de 0 à 59 mois. Bonne nouvelle, aucun décès signalé jusqu'à présent. Selon le médecin chargé de la maladie à la division provinciale de la santé, les malades sont pris en charge en attendant la déclaration officielle de l'épidémie. Le docteur Jean-Pierre Sumba appelle les parents à amener rapidement tout enfant fiévreux au centre de santé le plus proche. Il a été joint au téléphone par Esther Ndelafina.
Il y a des cas de rougeole au niveau de la province. On dirait même que nous sommes déjà en épidémie, mais nous attendons que l'épidémie soit déclarée par l'autorité compétente, qui est le gouverneur de la province. Il y en a qui ont été déjà confirmés au laboratoire au niveau national. Nous sommes déjà avec un grand nombre de cas au-delà des limites qu'il faut. Donc pour la dernière semaine de l'année 2025, c'est la 52e semaine, nous sommes allés jusqu'à 61 cas de rougeole. C'est énorme. Et nous sommes en train de nous préparer pour que nous puissions riposter à cette épidémie. La rougeole apparaît presque de manière cyclique au niveau de la province. Il y a plusieurs raisons qui peuvent expliquer ça. Il faut noter que lorsque nous faisons la couverture vaccinale au niveau de la province, tous les enfants ne se font pas vacciner. Il y a toujours des enfants qui restent par-ci, par-là, et ces enfants-là peuvent présenter la maladie. Mais il y a les enfants pour lesquels les propres parents refusent qu'on puisse les vacciner. Les cachent, ils ne veulent pas. Disons qu'actuellement, la maladie est prise en charge au niveau des différentes sécure où apparaissent ces enfants. Notre plan de riposte est déjà prêt, mais dans l'entretemps, au niveau des différentes zones de santé, il y a de petites campagnes parcellaires à des endroits pour éviter que la propagation ne soit fulgurante au niveau de la province.
Sud Kivu, une épidémie de choléra frappe la zone de santé de Ruzizi dans les territoires d'Uvira. Le dernier bilan est alarmant, 182 cas recensés et 4 décès, dont 3 aires de santé. Et c'est Ndunda qui arrive tristement en tête. Jean Kassami nous donne les détails. 144 cas à Ndunda, 28 cas à Kigurwe et 10 cas à Rusabagi, où l'on déplore 3 décès à elle seule. Et ce n'est pas tout. D'autres zones comme Nazareno, Sangue Eta et Sangue Sepak sont également touchées. L'infirmier titulaire de la zone de santé de Ruzizi tire la sonnette d'alarme. Les moyens manquent pour combattre l'épidémie. Une situation qui fait craindre une propagation rapide dans toute la plaine et même au-delà. Pour l'instant, la division provinciale de la santé du Sud Kivu au Sud Kivu ne s'est pas encore exprimée. Depuis Bukavu, Jean Kassami.
L'autorité sanitaire de la plaine de Ruzizi fait mention des 144 cas signalés à Ndunda, 28 cas à Kigurwe et 10 cas à Rusabagi. L'aire de santé de Rusabagi enregistre jusqu'à ce jour 3 cas de décès. D'autres zones telles que Nazareno, Sangue Eta et Sangue Sepak sont aussi affectées. L'infirmier titulaire de la zone de santé de Ruzizi reconnaît qu'ils sont limités en termes d'intrants pour combattre cette maladie qui sévit dans leur secteur. Ainsi, il redoute qu'elle ne se répande sur l'ensemble de la zone de santé de Ruzizi ainsi que dans d'autres zones sœurs de la périphérie. La division provinciale de la santé au Sud Kivu ne s'est pas encore prononcée au sujet de cette maladie. Bukavu, Jean Kassami, Radio Okapi.
Congo central à Matadi, les trottoirs se transforment en marché pirate, notamment dans le quartier Kikanda, commune de Matadi. Selon plusieurs habitants, ce phénomène s'explique par l'absence d'un marché capable d'accueillir tous ces vendeurs qui étalent leurs marchandises le long des artères. Une situation qui expose aux vendeurs et acheteurs à des risques d'accidents sur la route. Nana Plurich Mambo pour Radio Okapi.
Ces étalages sont visibles à de nombreux endroits, partant du rond-point RTNC, en passant sur le rond-point Kinkanda jusqu'au 24 novembre. Toute la chaussée ainsi que les trottoirs sont envahis par divers produits de première nécessité, des vêtements ainsi que des biens de seconde main en provenance de l'Europe communément appelée Bilocost. Mais derrière cette activité de survie se cache une réalité alarmante, entre autres risques d'accident, insalubrité et tracasseries répétées. Plusieurs cas ont été signalés. Jusqu'à ce jour, aucune solution n'a été trouvée. Pourtant, les habitants de cette ville ont toujours demandé que l'État leur trouve un espace où ces personnes peuvent exercer leurs activités en toute sécurité. Pour leur part, les vendeurs indiquent que la pauvreté le pousse à s'adonner à cette activité pour leur survie. Ils n'ont pas de choix. Plusieurs croient que ce que nous vendons n'a pas de valeur. Nous vendons dans les rues parce qu'il n'y a pas d'autre endroit où nous pouvons le faire. Nous courons plusieurs dangers avec le couteau et des liquides. Mais pour subvenir aux besoins de nos familles, on n'a pas d'autre choix. Rappelons qu'il y a quelques mois, l'autorité urbaine a procédé à la démolition de ces étalages, mais sans parvenir à convaincre ses marchands à quitter ces trottoirs. Matadi, Nana Plurish Mambu, Radio Okapi.
Actualité internationale.
Ce samedi 3 janvier, le Cambodge exige le retrait immédiat des troupes thaïlandaises de ce qu'il considère comme son territoire une semaine après la trêve ayant mis fin au combat meurtrier à la frontière. Ce vieux différend frontalier a déjà dégénéré plusieurs fois en affrontement militaire en 2025. Le dernier épisode du 7 au 27 décembre a fait plus de 40 morts et provoqué le déplacement de près d'un million de personnes. Phnom Penh accuse d'avoir pris le contrôle par la force des zones dans quatre provinces frontalières. Dans un communiqué, le ministère cambodgien des Affaires étrangères demande à Thaïlande de retirer ses troupes et son matériel et de cesser toute activité militaire hostile. La veille, le ministre cambodgien de l'information dénonçait une annexion illégale des territoires, accusation rejetée par Bangkok qui affirme agir conformément aux règles internationales.
L'invité.
La ville de Kananga, dans la province du Kasaï central, fait face à une explosion du nombre de têtes d'érosion. Elles sont passées de 400 à 800 selon les dernières données du ministère provincial des infrastructures, travaux publics et réhabilitation. Quelles sont les causes de ces phénomènes inquiétants? David Mwanda, expert en environnement, nous éclaire. Il s'entretient avec André Katende Ngalamouloumé.
Monsieur David Mwanda, bonjour.
Bonjour, monsieur le journaliste.
Dites-nous, quel est l'état des lieux des têtes d'érosion ici sur la ville de Kananga?
Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Le problème phénomène érosif, c'est un facteur qui est en train de tuer presque tous les espaces habitables. C'est un vrai problème. Si on n'est pas plus pressé, on risque de connaître l'effacement de la ville de Kananga.
Quelles sont, selon vous, les causes des têtes d'érosion à Kananga?
Le ravin provient du phénomène érosion. Il y a plusieurs causes. Il y a des causes qui proviennent du fait de la volonté de l'homme. Mais il y a les phénomènes qui se font de façon naturelle. Quand nous voyons l'érosion, c'est déjà l'expression de la pollution du sol. Le sol est totalement pollué. Maintenant, il intervient le phénomène de construction anarchique. Lorsqu'on a créé de nouveaux quartiers, on n'a pas très bien érigé, on n'a pas respecté le plan urbanistique. Lorsqu'on coupe les arbres, la terre est complètement polluée. Tes toitures libèrent des litres d'eau sur la terre. Maintenant, ces eaux-là ne sont pas canalisées. Et ces eaux-là se rebellent, ça devient maintenant les eaux sauvages. Avec le sol qui est déjà pollué, alors il y a la déchirure qui s'est faite que nous appelons le ravin.
Vous venez de dire que le sol est pollué. Qu'est-ce qui est à la base de cette pollution?
Le sol est soutenu par la végétation. C'est pourquoi on appelle ça la couverture végétale. Lorsque le sol est couvert, l'eau va ruisseler. Mais quand on a dénudé le sol, l'eau maintenant commence à faire des impacts sur le sol. Une goutte d'eau qui tombe crée ce que nous avons appelé l'effet splash. Ça détache sans se rendre compte. Quand nous marchons, lorsqu'on balaye, vous allez trouver dans d'autres quartiers des maisons qui sont maintenant suspendues. C'est l'érosion. Lorsqu'on a déboisé, on a jeté les déchets. Il y a des déchets toxiques.
lorsqu'on les jette sur la terre est complètement polluée, c'est fini. La terre n'attend qu'une occasion et là, quand il y a le ruissellement, c'est fini.
Monsieur David Mwanda, qu'est-ce qui peut être fait pour mettre fin à ces problèmes ou diminuer les risques des têtes d'érosion à Kananga?
Ce n'est pas facile d'arrêter, mais néanmoins, on peut faire la lutte à diminuer les impacts sur le sol. Comment diminuer les impacts? Tous ceux qui s'amusent à pouvoir dénuder le sol doivent cesser. Et toutes les constructions, on doit mettre les gouttières. Et normalement, dans toutes nos parcelles, on doit mettre des gazons. Les gazons, c'est un tampon qui absorbe des eaux. Et essayer de gérer correctement les déchets. Vous voyez, par exemple, dans nos maisons, on jette des piles, on casse des batteries, on les jette. Il y a des produits chimiques là-dedans. Lorsqu'il y a des compositions de ces produits-là, ça va poser des problèmes. Ça tue le sol. Nous avons des entreprises telles que Purique qui s'occupent de la lutte. Mais cette entreprise doit être rapide. Depuis que l'entreprise existe, on entend seulement, on a ouvert tel chantier, mais on ne voit pas l'impact. Entre-temps, le phénomène est en train de se faire sur la ville de Kananga. Ils sont sur le vieil ravin, mais entre-temps, 2, 5, 6 sont en train d'être créés quelque part. Alors, ils ne font pratiquement rien, ils ne peuvent pas faire ça. Donc, ils doivent juguler. On doit planter les gazons, on doit planter les arbres. Là, on peut lutter quelquefois à diminuer les impacts sur la terre. Ce que nous voulons, il faut couvrir le sol.
Par rapport au problème de l'urbanisme, vous voyez qu'à Kananga, la plupart des gens veulent construire au centre-ville. Plus les gens sont sur la ville, plus ils vont chercher à se trouver de terrain et construire. Ça va toujours créer de problèmes. Quelle solution vous proposez?
Personnellement, je suis contre le morcellement des parcelles. Il faut étendre la ville. On peut aller vers Mwambambouyi, on peut aller vers Matamba, on peut aller vers Ntambwe-Saint-Bernard, étendre la ville. À ce moment-là, ça pourrait très bien marcher. Mais lorsqu'on autorise tout celui qui vient, bon, je coupe, on coupe, on autorise, il se met là-bas. Les eaux ne sont pas canalisées, la construction qu'il va mener là-bas. On n'a pas tenu compte des normes urbanistiques, ça va créer toujours des problèmes.
Monsieur David Mwanda, nous rappelons que vous êtes expert en environnement ici au Kasaï Central et nous vous disons merci d'avoir bien voulu répondre à nos questions.
C'est à moi de vous dire merci.
Merci à notre invité David Mwanda pour ses éclairages sur les causes et les solutions face à la menace des érosions à Kananga. Un grand merci également à André Katendinga Lamouloumé pour avoir mené cet entretien. Merci d'avoir suivi cette grande édition sur Radio Capi. Mise en onde Pierre Diassino, coordination Jude Mister Bilonda, présentation Gisèle Cage. Merci pour votre fidélité à Radio Capi. Pour plus de détails, rendez-vous sur notre site web www.radiocapi.net et retrouvez ce journal en podcast à tout moment. Restez avec nous pour la suite de nos programmes et passez une excellente soirée.